Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Grand Ciel. À l'écoute de notre émission, Bonjour Jérusalem, avec en régie Simon. Coucou Simon. Et Elisabeth.
Bonjour. Bonjour Christine, bonjour Simon. Après quelques jours de repos, voilà, nous revoici donc de retour pour commenter l'actualité israélienne. Alors, quel est le sujet que vous nous proposez, Christine, aujourd'hui, alors ?
Eh bien, justement, je me suis penchée sur une loi qui soulève énormément de questions.
Lesquelles ?
Eh bien, c'est la loi sur l'état de la nation juive qui a été approuvée par le Parlement israélien, c'est-à-dire état confessionnel ou état démocratique.
Bon, c'est une loi célèbre, il me semble.
Ah oui, tout à fait, Elie, puisque à juste titre, elle a été discutée, enfin, elle est discutée depuis 2011, lorsqu'elle a été présentée par l'actuel président de la Commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, qui est en fait un ancien chef du Shin Bet, c'est-à-dire les services secrets israéliens.
Cette loi aura donc été votée.
En fait, après d'innombrables versions, la loi a été approuvée et reçue avec des réactions bien différentes. La droite est enthousiaste, les autres sont très inquiets. Il faut savoir aussi que non seulement des Palestiniens, mais aussi de nombreux Israéliens au Parlement, il y a eu 62 voix qui s'étaient prononcées pour et 50 voix contre. Ce sont des personnalités incontestées de la communauté juive américaine qui ont qualifié ce texte de raciste.
C'est vite fait, là. Ces mots racistes commencent à m'exaspérer un peu. On en joue tout le temps. Voilà. S'il y a eu approbation, cela veut donc dire que le président d'Israël, Reuven Rivlin, était aussi d'accord.
Oui, puisqu'il a fait parvenir avant l'approbation une lettre ouverte aux députés et communiquée à Benjamin Netanyahou, expliquant que cela pourrait nuire au peuple juif, aux juifs dans le monde et à l'État d'Israël. Il a lancé en particulier un appel à supprimer ou à modifier cet article qui aurait permis à toute communauté d'établir, enfin un article précis qui aurait permis à toute communauté d'établir des localités excluant des juifs orientaux, des ultra-orthodoxes, des druzes, des membres de la communauté LGBT. Alors je vous avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire.
LGBT, c'est facile. C'est les homos. Femmes et hommes.
D'accord. J'y avais bien pensé, mais je n'avais pas osé.
Si, c'est ça.
Approfondir.
Je ne sais pas trop, mais c'est ça.
Eh bien, finalement, cet article n'apparaît pas dans la version finale du texte approuvé.
Alors, il y a autre chose là, qui pose problème devant cette loi ?
Oh oui, en effet, puisque il y en a quelques-unes. La loi nouvellement votée, en plus de déclarer Israël État de la nation juive, malgré le fait, bien sûr, que je rappelle, 9 millions d'habitants, soit 20%, sont des Arabes, déclasse la langue arabe de langue officielle au rang de statut spécial et déclare que seuls les Juifs ont le droit à l'autodétermination.
Bon, je comprends qu'on parle de racisme, enfin bon. Alors, je comprends mieux cette polémique, alors.
Oui, car tout d'abord, l'État d'Israël ne considère pas du tout la nationalité israélienne en tant que telle, si ce n'est pour des utilisations extérieures. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, le citoyen est défini par l'appartenance ethnico-religieuse.
Je comprenais mieux cette polémique.
Oui, alors, surtout, s'agissant du fait que l'État d'Israël ne considère pas la nationalité israélienne en tant que telle, si ce n'est pour des raisons extérieures. Il faut savoir, en effet, c'est qu'en Israël, le citoyen est défini simplement par l'appartenance ethnico-religieuse.
C'est une situation peu commune.
D'autant plus bizarre que dans le passé, c'est-à-dire aux alentours de 2013, la Cour suprême a également été appelée à statuer sur des affaires portées par des groupes de citoyens, mais elle a maintenu le statu quo, réitérant ce qui avait été déjà décidé dans un cas similaire 40 ans plus tôt, à savoir que le peuple juif ne peut pas être divisé en deux, d'un côté la nation juive et de l'autre la nation d'Israël.
C'est un peu compliqué, moi.
Oui.
Alors, c'est certain que cet amalgame ouvre la voie à une longue série de discriminations, n'est-ce pas ?
Ah oui, car ces discriminations sont d'une manière ou d'une autre déjà constatées dans certains textes législatifs et également dans la pratique quotidienne d'Israël sur les questions sensibles. Ma foi, telles que l'immigration, la répartition des maisons, le regroupement familial, la propriété foncière et ainsi de suite.
Difficile à résoudre tout ça. Hein. C'est une crainte réelle, apparemment, qui rendra les choses encore plus difficiles. Hein. Alors, donc, ça serait compliqué, non, j'imagine. Ça va rendre plus compliqué la coexistence de deux concepts très lointains, n'est-ce pas?
Oui.
Comme la démocratie et la religion.
Oui, c'est vrai que c'est une loi fondamentale. On se pose la question qui rentre dans la catégorie des lois fondamentales. Ce qui signifie que cette dernière loi aura force constitutionnelle pour l'État hébreu. Il n'y a jamais eu en Israël de constitution rédigée ou approuvée.
Alors, donc, c'est une crainte. Forcément, on peut en avoir peur de tout ça. Hein. C'est assez difficile à résoudre tout ça, alors.
Cela rend encore plus compliqué, bien sûr, la coexistence des deux concepts hein, très lointains tels que démocratie et État religieux. La question se pose ainsi. Israël réservé aux Juifs sera-t-il capable de rester un État démocratique?
Alors, et Israël souhaiterait devenir un État religieux, alors?
C'est vrai que c'est un aspect assez surprenant et régulièrement souligné dans le monde arabe du Moyen-Orient. Et à la lumière de cette conviction soutenue, au moins pour partie dans les faits, il ne faut surtout pas oublier l'histoire récente de la région.
Alors, rappelez-nous cela, Christine, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas.
On va rentrer un peu dans les détails. On va se rappeler la division de l'Irak en petits états sur des bases ethnico-religieuses, kurdes, sunnites, chiites. La tentative d'écrasement de la Syrie, où il était difficile de ne pas lire l'intention d'obtenir une solution similaire à celle supposée pour l'Irak. Mm-hmm. Ou encore l'alliance d'Israël et de l'Arabie saoudite, état confessionnel par excellence, du Moyen-Orient.
Alors, inutile de le dire que tout cela ne contribue pas à la compréhension mutuelle. On tiendra les auditeurs de l'état d'avancement, et on va vous tenir au courant, de l'état d'avancement de cette situation inextricable.
Oui, et nous allons changer maintenant de sujet pour parler de différentes composantes de la société israélienne contemporaine. Si vous le voulez bien,
Élie. Oui, bah bien sûr. Je suppose que c'est un vaste sujet. Hein.
Oui, tout à fait. Comme vous le savez, sans doute, la société israélienne actuelle se présente ainsi. Un bloc monolithique et homogène.
Donc voici une opinion abondamment répandue et si souvent entendue dans des réflexions émanant de nos relations.
À vrai dire, il faut avouer que l'on est bien loin du compte. Pour relativiser la portée de cette assertion initiale, je vous propose de l'aborder sous un angle d'approche assez particulier et qui est celui d'un petit livre rédigé au printemps 2014 par Aude Markovitch, intitulé « Israël, les blessures d'un destin », publié aux éditions Nevikata à Bruxelles.
C'est une très bonne idée que de communiquer les références de ce petit livre.
Oui, parce que ça peut donner certainement une première approche plus compréhensive pour le lecteur. Et dans cet ouvrage, effectivement, à la lecture fort agréable d'ailleurs, cette journaliste nous plonge au plus profond de l'âme d'Israël à travers une série de portraits d'habitants de ce pays qui représentent chacun une réalité particulière et parfois en rupture de cette société si complexe.
Alors voilà Christine, je vous propose de faire une pause musicale et nous reviendrons vers les auditeurs de Radio Grand Ciel dans quelques minutes. nous revoici dans l'émission Bonjour Jérusalem sur Radio Grand-Serve et nous poursuivons notre sujet très intéressant sur un petit livre écrit par Aude Markovitch qui nous permet de mieux comprendre l'âme d'Israël.
Et oui, Elisabeth, hein, il faut remarquer que l'auteur a professionnellement couvert de nombreux événements, dont les trois guerres entre Israël et le Hamas à Gaza, les élections générales israéliennes, la révolution en Égypte et les débuts de la guerre en Syrie.
Voilà, ce n'est pas encore un ouvrage supplémentaire à ajouter à la longue liste des livres.
Non, du tout, car c'est ainsi qu'avec de petits récits, parfois tragiques, parfois comiques, souvent surprenants, mais toujours émouvant, ce petit livre est une véritable plongée au cœur de la société israélienne contemporaine, qui est en fait un authentique laboratoire social.
Alors ça, là, sa lecture est un véritable voyage au cœur des passions israéliennes.
Oui, et en fait, ce serait plutôt un décodeur, on va dire, hein, car il permet de comprendre la complexité de ce peuple, et revisite à travers une dizaine de portraits, puis à l'écoute des grandes voix israéliennes, l'image d'un pays façonné au gré des confrontations religieuses et d'une histoire souvent tragique.
Oui, surtout dans les dernières décennies. Alors, peut-on considérer que cet ouvrage est une forme de recensement de grandes questions politiques et diplomatiques qui agitent la région?
Non, pas du tout. Il nous permet au contraire de voir Israël de l'intérieur, à vue humaine, pourrait-on dire, de partager la vie de ces Juifs, de ces Arabes chrétiens et musulmans, connus ou non, qui constituent la trame de cette société plurielle.
Donc, elle partageait sa vision d'Israël.
Et oui, puisque l'ensemble de l'ouvrage présente des Israéliens avec leur lot de joie, de peine, de colère et de blessures. Dans cet éternel champ de bataille qui est leur petite terre tant convoitée depuis des millénaires, les citoyens de l'État hébreu racontent avec leurs mots le destin du pays qu'ils continuent de construire et celui des communautés dont ils sont issus.
Cela laisse à penser que chaque histoire est prenante.
Ah oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut vraiment le lire parce que moi, je l'ai lu sur Internet, donc on peut le trouver. Alors, c'est vrai, au fil des pages, les portraits vont de l'ancien terroriste palestinien Amoshé, l'ex-agent espion du Mossad, là on rentre dans les missions impossibles, à la santé fluctuante qui estime avoir été pressé comme un citron par son ancien employeur, en passant par le créateur compulsif des startups, les membres de la famille Belkin, dont les racines plonge profondément dans l'histoire du Proche-Orient, un soldat ultra-orthodoxe, Avner, l'agriculteur du Negev, un colon pétri de foi religieuse et sioniste qui a choisi de s'isoler au sommet d'une colline aride de Cisjordanie, les bobos de Tel Aviv, fascinés par son architecture boss, oui. Et même Marius Schattner, un ancien 68ard post-sioniste devenu journaliste à l'AFP.
Voilà,
donc on a vraiment un panel extraordinaire.
Bien mélangé tout ça. Hein. Oui. Donc, si j'ai bien compris, toutes leurs paroles, rythmées par les prières de croyants, tracent le sillon d'une réalité bigarrée entre modernisme débridé et hyperconservatisme.
Vous voyez que même l'histoire de Tel Aviv est également retracée, ainsi que celle des implantations de Judée-Samarie. Toutes les personnes qui sont présentées par l'auteur sont des traumatisés de l'histoire, avec un destin blessé, là où réside peut-être le secret de la force et de la vitalité des Israéliens actuels.
Alors on peut dire que c'est une aventure humaine.
Oh oui, car Aude Markovitch a voulu réaliser une sorte de road trip montrant Israël de l'intérieur. Au fil des mois, de Sderot à Tel Aviv, en passant par Haïfa et la Cisjordanie, elle a rencontré énormément de personnes.
Ces dernières ont donc quelque chose de particulier, n'est-ce pas?
Puisqu'elles incarnent une thématique et permettent de mieux comprendre comment fonctionne ce pays aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant dans les différents portraits, c'est qu'ils ont à peu près tous connu une rupture, voulue ou subie, et qu'ils en ont tiré une force d'aller de l'avant.
On dit bien que ce qui ne tue pas rend plus fort.
Oui, voilà, c'est paraît-il.
Oui, c'est ce qu'on dit. Enfin, ouais. On dit ça, voilà. Alors, ce qui veut dire donc que ces personnes ont connu des blessures profondes qui leur ont permis d'accoucher de quelque chose de nouveau.
Oui, on peut dire ça ainsi. Israël n'est pas qu'un simple pays mosaïque, où l'on croise des cultures, des origines et des modes de vie différents. C'est aussi une société dynamique, sans cesse en mouvement, parcouru d'énergie créatrice. Alors qu'en Europe, on profite des acquis des années précédentes, en Israël, par ailleurs, on bâtit pour l'avenir. C'est cela aussi l'âme de ce pays.
Alors, le livre d'Aude Markovitch a donc l'avantage de souligner qu'Israël n'est pas un bloc monolithique et homogène, comme on l'imagine.
Ben oui, parce que c'est ce qui avait été dit au début de cette émission. En fait, au XXIe siècle, il existe toujours une diversité dans le judaïsme. Plusieurs dénominations, plusieurs familles, différents courants témoignent du fait que le judaïsme n'est pas un bloc uniforme.
Ah oui, si je comprends bien, Christine, sa diversité forme un véritable singulier pluriel.
Oui, puisque ce singulier pluriel est constitué de nombreux mouvements présentant différentes interprétations des textes fondateurs qui réfléchissent ainsi à l'identité juive tiraillée entre assimilation et fidélité à une vocation spirituelle.
Pourtant, la société israélienne est relativement jeune.
Puisqu'elle se caractérise bien sûr par des engagements sociaux et religieux, son idéologie politique, ses ressources économiques et sa créativité culturelle, autant d'éléments qui contribuent bien sûr à son dynamisme et à son effort.
Alors, depuis plus de 2000 ans, les Juifs se sont donc dispersés dans d'autres pays, principalement en Europe, en Amérique, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
C'est ce qu'on appelle bien sûr la diaspora.
La diaspora, voilà.
Voilà. Au cours des siècles, ils créèrent d'importantes communautés juives dans les pays proches ou lointains, où ils connurent de longues périodes de croissance et de prospérité, mais également des époques d'impitoyable discrimination, de pogroms et d'expulsion totale ou partielle.
Et est-ce que cette vague de persécution et de violence qui conduisait les individus ou des groupes à retourner dans leur patrie ancestrale, Christine ?
C'est en principe ce qu'on appelle le mouvement sioniste créé à la fin du XIXe siècle qui concrétise cette idée du rassemblement des exilés en un mode de vie qui est incorporé dans la loi et qui accordait la citoyenneté à tout juif désireux de s'installer dans le pays.
Alors les fondements politiques, économiques et culturels de la société juive contemporaine se sont donc forgés durant la période du mandat britannique.
Oui.
Revenir un peu aux bases.
Oui, voilà. Pour revenir, mais aussi en précisant la période qui, de 1922 à 1948.
Oui, 48,
le mandat britannique,
la création de l'État d'Israël.
Oui, il faut bien reconnaître que l'accession à l'indépendance politique et l'immigration de masse qui sont suivies, doublant la population juive d'Israël, ont modifié bien sûr la structure et le tissu social israélien.
En quoi cela a-t-il modifié le tissu social ?
Eh bien, il en est résulté un groupe social constitué de deux éléments principaux. Une majorité composée des membres de la communauté séfarade, enracinés de longue date, des pionniers ashkénazes et des rescapés de la Shoah. Et une importante minorité de juifs émigrés, plus récemment des pays islamiques, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Comment a débuté la communauté séfarade ? Dans un premier temps, commençons par décrire cette communauté-là, non ?
Oui, alors ce terme signifie Espagne, hein, c'est Séfarad, Espagne. Mm-hmm. Actuellement, il désigne des Juifs originaires d'Espagne et plus largement de la péninsule ibérique, Espagne et Portugal. Mm-hmm. Après leur expulsion au XVe siècle, c'est-à-dire en 1492...
Par Isabelle la Catholique.
Oui, ils se répandirent autour du bassin méditerranéen. Mm-hmm. En Grèce, en Italie, dans le Maghreb, les Balkans et l'Empire ottoman, jusqu'à Istanbul, Constantinople.
Alors... On en ressent certains dans des très grandes villes européennes.
Ah oui, qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. Par exemple, Amsterdam, Baruch Spinoza, et certains ont émigré dans les grandes villes européennes comme Hambourg, Londres, Venise.
Oui, parce que en fait, après qu'ils aient été chassés d'Espagne, c'est à Amsterdam qu'ils sont installés premièrement.
Oui, premièrement.
Et puis l'Espagne
Londres,
s'est mariée avec l'Autriche. Ouais. Et à partir de ce moment-là, ils ne pouvaient plus rester là.
Voilà, petit cours d'histoire.
Exactement. Alors, on en trouve en France, bien sûr.
Oui, il y en avait à Bordeaux, Bayonne, le comtat vénécin. La langue est le ladino, un mélange d'hébreu, d'araméen et d'espagnol, mais aussi le judéo-arabe, le judéo-espagnol, le judéo-portugais et le judéo-catalan.
Alors,
vous voyez comme quoi il y avait beaucoup de petites communautés.
Il y avait Salonique aussi, il y avait une communauté extrêmement importante et à mon avis, il y en a certains qui viennent de là, hein, comme je pense les ancêtres de M. Sarkozy. Eux, ils arrivent depuis là. Alors, quelles sont alors les différences avec les Ashkénazes ?
Alors, on les notera dans le domaine religieux. Les programmes, en fait, déjà ashkénazes, le programme des prières et la façon de pratiquer certains commandements de la loi juive. Et en plus, il y a des différences importantes dans le domaine culturel. C'est une langue vernaculaire et différentes prononciations des chansons, musique, poésie, littérature, nourriture.
En général, ils arrivent de l'Europe, ouais. Les ashkénazes. Alors que les séfarades sont plutôt dans le nord de
oui,
l'Afrique.
Voilà.
Exactement. Alors, pour en revenir aux fameuses ashkénazes, quelle est la signification ?
Eh bien, tout simplement, le terme ashkénaz désigne un patriarche biblique qui serait le petit-fils de Japhet. Mais dans ce contexte, il s'agit cependant d'une région située au nord de la Syrie. Mm-hmm. Ce mot a désigné ensuite un peuple qui s'appelait les Scythes. Puis la Lotharingie, une des trois parties de l'Empire de Charlemagne, divisée après sa mort au IXe siècle. Enfin, une dernière signification dans la littérature rabbinique médiévale, et à partir de Rashi au XIe et XIIe siècle, l'Allemagne, les régions proches du Rhin.
C'est ça. On sait que plus largement, ce terme désigne un juif qui provient de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, d'Allemagne, de la Pologne, de Russie, de l'Empire austro-hongrois et de la Lituanie. Puis, finalement,
tous les juifs d'Europe du Nord. Oui.
Exactement.
C'est à ça qu'on les reconnaît.
En fait,
c'est la différence entre
les
Sépharades, bien sûr, qui sont, comme on vient de le dire. Voilà.
Oui.
Il faut savoir aussi que leur âge d'or se place essentiellement en Pologne, dès le XIVe siècle, et surtout au XVIe siècle. Leur langue est une langue vernaculaire, comme je l'ai précisé tout à l'heure, qui s'appelle le yiddish, est un mélange d'hébreu, d'araméen, d'allemand, de langues slaves, polonais et russes, et romanes.
Alors, on a parlé des deux groupes les plus importants de la société juive. Y en a-t-il d'autres moins connus, peut-être ?
Ah oui, il y en a d'autres. Il y a un cas particulier de juifs émigrants au Moyen-Orient. Alors, ce sont les Mizraïm, appelés également « communauté de l'Orient ».
Ah, oui.
C'est un terme qui signifie « orientaux ». En hébreu, Mizra, désignant l'Est, et qui désigne également les Juifs originaires d'Orient et d'Asie, c'est-à-dire des pays arabes, du Yémen, d'Iran, d'Irak, d'Inde, du Caucase, de Géorgie, du Kurdistan, d'Azerbaïdjan et d'Ouzbékistan.
Donc là aussi, alors, il y a eu des persécutions et des migrations vers Israël.
Ah oui, la plupart des Juifs Mizraïs ont quitté leur pays de naissance à la suite des persécutions subies lors de la guerre israélo-arabe de 1948 et de l'établissement de l'État d'Israël. Toutes ces actions anti-juives furent encore menées par les gouvernements arabes dans les années 50 et 60, parmi lesquels l'expulsion de 25 000 juifs d'Égypte à la suite de la crise de Suez de 1956. D'autres réfugiés émigrèrent vers Israël ou aux États-Unis, principalement les Juifs de Syrie ou d'Égypte.
Alors revenons aussi vers les Juifs d'Afrique du Nord, qui fut une ancienne colonie française.
Ah oui, puisqu'ils fuirent vers la France, ce qui modifia profondément le paysage culturel juif français, dans lequel ils étaient
très assimilés, totalement, voilà. Exactement. Peut-on savoir, il y a combien de Juifs Mizraïm ?
Oui, on sait qu'il reste environ 40 000 Mizraïm répartis dans des communautés éparpillées dans le monde musulman, non arabe, principalement en Iran, mais aussi en Ouzbékistan, Azerbaïdjan ou en Turquie.
Bon, en effet, c'est pas beaucoup.
Non, ça fait pas beaucoup. Mais c'est vrai aussi qu'on les confond souvent avec les Sépharades. Le terme fait d'ailleurs référence aux Juifs originaires des pays arabes et d'Asie, qui regroupent ainsi Mizraïm et Sépharadim en un seul groupe, malgré l'évidente contradiction lexicale et les nombreuses différences culturelles entre ces deux populations. De nombreux juifs Mizraïm rejettent cette appellation et toute désignation collective, préférant l'identification à leur pays d'origine ou celui de leurs ancêtres immédiats, comme par exemple juifs d'Irak, juifs kurdes, juifs yéménites, etc., etc.
Voilà, je crois que c'est un sujet extrêmement complexe. Ça sera peut-être pas mal d'y revenir lors d'une prochaine émission, à parler de ça. Peut-être à redire, comme ça les gens sauront qui sont les Sépharades, les Ashkénazes, etc. Donc voilà, on vous propose maintenant une longue page musicale pour vous dire au revoir. Et avant de nous retrouver dans une autre émission, toujours en parlant sur l'origine de la société israélienne contemporaine, à nouveau sur Radio Grand Mission, Radio Grand Ciel, dans une émission Bonjour Jérusalem, avec Christine qui nous raconte tout ça. Voilà, ben merci Christine. Au revoir à nos auditeurs.
Je vous en prie, puis à très bientôt.
À bientôt.